Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac et j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Tous les 15 jours, je troque une heure de piscine contre une heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'hypersensible et charismatique Dora Mouto. Dora, c'est une femme qui défend des causes et sa cause. La reine de l'Instagram sans filtre. En quelques mois, elle a construit des communautés ultra engagées autour de la sexualité féminine et de la santé. Dora a commandé un thé glacé sans sucre. Vous comprendrez pourquoi après. Écoutez sa voix qui sourit et son parcours génial dans Ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on parle à bâton rompu. Salut Dora.
Salut.
Merci de venir jusqu'à nous et d'accorder cette interview à Ça reste entre nous. J'aimerais commencer l'interview par un truc tout bête. Je voudrais savoir ce que tu as fait aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai été faire la promo de mon livre qui s'appelle La fleur de P, P-E-T. J'ai été faire la promo chez Combini aujourd'hui. Okay. Voilà.
Et donc, tu boucles la boucle un peu?
Exactement, je boucle la boucle. Et j'ai travaillé sur le docu que je suis en train de créer, un docu pour France Télévisions et Arte sur les thérapies du microbiote. Donc je suis à fond dans les...
Donc c'est le même sujet finalement,
le sujet
de ton livre qui va devenir un documentaire.
C'est ça.
Et donc tu es déjà certaine d'une diffusion
Oui.
Ok.
Ça a été acheté.
Très bien.
Ce sera
félicitations.
Merci.
Et du coup, ça sera diffusé sur France Télé sur...
En fait, c'est France Télé, France TV slash, enfin la partie okay. slash sur Internet, Arte et la plateforme de TV5 Monde qui ont acheté tous les trois ce docu. En fait, on a répondu à un appel d'offres avec ma boîte de prod qui est Effervescence Prod. L'appel d'offres était « Ma vie sur les réseaux sociaux ». Et du coup, il fallait qu'on imagine un concept autour de ça. Et moi, ça fait longtemps que... Enfin, en fait, la façon dont j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire que mon problème de santé, j'ai réussi à l'explorer à travers les groupes de malades Facebook, en fait. La médecine conventionnelle ne pouvait pas m'aider. Je ballonnais absolument tout le temps. J'ai une machine à péter, à faire une machine à gaz, quoi. Le truc complètement hallucinant d'un jour à l'autre. Je pouvais plus rien digérer. Les médecins me disaient, c'est dans ta tête, Dora, c'est psychosomatique. Moi, il y a un moment, j'ai plus pu entendre ça. Et en fait, en tapant les bons mots-clés, j'ai été sur Facebook et j'ai découvert des groupes de malades extrêmement pointus. Et du coup, j'ai pu poser des questions et j'ai pu peu à peu évoluer à travers les groupes de malades parce qu'il y en a plein. Et j'ai découvert plein de thérapies plus ou moins alternatives. Pour me soigner, et du coup le docu, en fait, on rentre dans le docu à travers ces groupes Facebook.
Ok, donc c'est quel est l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux
oui. dans la maladie,
dans la maladie et ouais. dans notre façon d'appréhender la maladie.
Exactement.
Ok. Ça fait, c'est aujourd'hui, ton actualité c'est celle-là, mais t'as beaucoup d'actualités.
Ouais.
Tu représentes un peu. Ce monde nouveau où en fait on n'a plus un seul métier ou une seule activité
ouais.
et où on cherche surtout à avoir un impact, à donner du sens à sa vie et à essayer de le mixer avec une carrière professionnelle.
Ouais.
Est-ce qu'à un moment quand tu étais petite fille,
ouais.
tu te disais je vais être une porte-voix, je vais défendre des causes comme tu peux le faire aujourd'hui ou pas vraiment?
Non, moi je me disais, alors quand j'étais petite, je voulais être créatrice de prénoms.
Créatrice de prénoms.
Ouais, c'était ça mon rêve, c'est-à-dire que mes poupées avaient chacune au moins 5 ou 6 prénoms parce okay. que j'arrivais jamais à me décider avec un seul. Et je demandais à ma mère de m'acheter à Noël des livres de prénoms. Et ça me passionnait, les livres de prénoms, aussi bien les prénoms grecs que les prénoms russes. Et je pensais qu'on pouvait faire l'université des prénoms pour devenir créateur de prénoms. Et quand mes parents m'ont dit que ce n'était pas un métier,
j'ai été... À quel âge tu t'en es rendu compte?
Je sais pas, genre 9-10 ans. Et ouais, j'ai été longtemps. Trop choquée. Je disais genre, mais merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et après, j'ai voulu faire un autre métier. Alors là, c'est complètement absurde, mais... quand j'étais enfant, je voyais bien qu'il y avait des pastèques avec des grains de raisin et d'autres qui n'en avaient pas. Et en fait, moi, ma passion, c'était d'enlever les grains de pastèque. Quand on me donnait une pastèque, je prenais des heures à retirer chaque grain de pastèque. Je me disais, bah, y a bien quelqu'un qui le fait. Donc, moi, je voulais bien...
C'était quelque chose qui ne te dérangeait pas, quoi. Tu te voyais faire ça de 7 jours sur 7.
Et oui, je trouvais que c'était très méditatif comme job. Et j'ai découvert que c'était des pastèques génétiquement modifiées. Donc, voilà. D'accord.
Donc, déception. Passer cette déception, t'as eu une enfance plutôt heureuse?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas eu une enfance heureuse. Je dirais que j'ai eu une enfance peut-être pas, pas malheureuse comme on pourrait imaginer une enfance où avec des difficultés financières ou quelque chose comme ça. C'était pas du tout le cas. Mais du moins, c'est une enfance où je ne me suis pas sentie heureuse.
D'accord.
Une situation familiale compliquée, des parents dans l'amour-haine, donc beaucoup de violence en fait, beaucoup de violence-amour, enfin très compliqué, beaucoup de violence envers, beaucoup de violence même envers les enfants, entre guillemets, parce que la violence du couple se reporte sur les gosses, et une adolescence où moi j'ai été très violente, et moi j'ai été très en colère, donc pas smooth.
Comment ça se traduisait? T'étais agressive, t'étais...
Alors déjà la
t'étais très rébellion.
Ouais. Très rébellion, très nos futurs, très cheveux rostiques.
Donc t'es passée de créatrice de prénom à très nos futurs, quoi.
Ouais, complètement. Okay. C'est ça, très nos futurs. Un peu indomptable et très enragée. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la défense de cause, ça va avec un peu le profil adolescente, sauf que j'ai intellectualisé ça, on va dire. Je me suis trouvé des excuses pour être énervée. Il y a un peu de colère, quoi.
Ouais. Et ça t'a pas embêté dans ton parcours scolaire, dans t'étais
si t'étais
une bonne élève quand même?
Non,
ou...
pas du tout. Moi j'ai été j'ai détesté l'école.
D'accord.
J'étais la reine du hors sujet, donc hors sujet tout le temps, puisque ce qui m'intéressait, c'était pas de répondre à la question, c'était de prendre ce qui m'intéressait, de le développer comme moi je l'entendais, sauf que ça marche pas du tout à l'école à la française. Mes parents ont beaucoup galéré, parce qu'il y a même un stade où j'ai été complètement déscolarisée, parce que j'ai développé une phobie scolaire à un certain stade, parce que les gens comme moi, il y a un moment on leur fait comprendre que qu'ils sont bêtes en fait. Donc voilà, moi je me suis posé des questions si j'étais pas totalement teubée, vu que je rentrais pas. Enfin, je suis pas bonne à remplir un truc quand il y a un test là comme ça. Je suis à côté de la plaque, je panique. Et moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec du contrôle continu. Et on note pas la créativité. Enfin, il y a tout un tas de qualités que j'ai qu'on ne note pas en France. Donc non, ça a été compliqué, quoi. Ça a été très compliqué, jusqu'à ce que, heureusement, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, et ça a été la libération, la philosophie anglaise.
T'as trouvé un vrai changement dans le mode de fonctionnement et dans le mode d'éducation entre l'Angleterre et la France?
Révolution, quoi. Déjà, j'ai toujours souffert de dyslexie. En France, on ne l'a jamais vraiment pris en compte à l'école. On m'a humiliée parce que je faisais des fautes d'orthographe. J'ai l'impression qu'on m'a constamment humiliée tout au long de mon parcours scolaire. Lorsque en Angleterre, des choses comme la dyslexie, ce sont des problèmes accompagnés, où on nous laisse plus de temps, on a quelqu'un qui peut relire pour nous. Et puis même, c'était du contrôle continu et il n'y avait jamais de test, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis plus jamais retrouvée, pourtant c'était l'université, je ne me suis plus jamais retrouvée à devoir être performante en une heure, ce qui pour moi... ne fonctionne pas avec la structure de mon cerveau. Toujours noté sur contrôle continu, créativité, recherche.
T'es partie en Angleterre à quel âge?
À 21 ans.
21 ans,
ouais.
Ok. Dans le cadre de tes études supérieures, t'es partie faire quoi là-bas?
Alors, en France, en amont, j'avais fait un BTS en stylisme, modélisme. Qu'à l'époque, en fait, j'étais une ado assez rebelle avec des cheveux de toutes les couleurs. J'ai les cheveux de l'arc-en-ciel, quoi. J'aimais bien m'habiller de façon très, très excentrique. très
donc
kawaii.
Donc l'Angleterre, quoi.
Ouais, et après l'Angleterre. Donc finalement, je me suis pas mal retrouvée dans cette culture. Et donc en Angleterre, j'ai fait journalisme et communication de la mode à la Central Saint Martin, qui est une école d'art et de mode. Ça a été la libération parce que en France, même dans mes choix de stylisme, enfin d'esthétique, on me disait mais Dora, t'as mauvais goût, quoi. Franchement, t'as mauvais goût, ça va pas du tout. Si tu t'attardes pas sur les finitions et quelque chose de plus chic, minimaliste, tu rentreras jamais sur le marché. Tandis qu'en Angleterre, on m'a dit ah bah tu sais quoi, t'as mauvais goût, bah vas-y. Et à ce moment-là, j'ai créé, enfin c'est la première chose
la
que j'ai créée sur internet, voilà, la Gazette du mauvais goût. Et sans cette libération anglaise qui me disait mais t'as le droit, tu sais quoi, si t'es bonne dans le mauvais goût, en fait, vaut mieux être bonne dans le mauvais goût que médiocre dans le chic, en fait.
Mmh.
Et je savais que j'avais un œil.
Tu savais capter le mauvais goût, là où il était.
Et il fallait, parce que j'ai des parents qui ont très mauvais goût, j'ai un père qui met chaussettes, sandales, et j'ai vécu 7 ans en Allemagne, je pense que ça n'y est pas pour rien. Donc voilà.
Okay. Et donc là, ça c'est à 21 ans, tu projettes, alors plus d'être créatrice de prénoms, mais tu projettes d'exprimer ta colère, d'exprimer avec un métier créatif. C'est plus ou moins ça.
En fait, ce qui m'intéresse beaucoup à l'époque, c'est moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'était les minorités, les sous-cultures. Voilà. À l'époque, c'était surtout les sous-cultures vestimentaires qui m'intéressaient. Alors, ça pouvait être une subculture métal ou une subculture plus dans un registre plus sexe fétichiste. Et c'était vraiment l'étude un peu de ces sous-cultures et de leurs codes vestimentaires qui me passionnait.
Et pourquoi ça t'intéressait, ce côté sous-culture ? Parce que T'as un côté où tu veux mettre en avant ce qu'on met pas en avant, ou
non,
c'était quoi?
Je crois que c'était déjà un peu l'esprit journaliste, c'est que ça m'amusait de me fondre dans des groupes.
D'accord.
Et du coup, c'était une façon de visiter des mondes qui m'appartiennent pas, quoi. Donc c'était une façon de me balader, quoi.
Très bien.
Une excuse.
Et comment tu passes de cette formation,
ouais,
journalisme, communication, mais plutôt sur les arts créatifs et le stylisme,
ouais,
à un boulot de journaliste pur et dur? Comment ça se fait?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant mes études, vu que j'avais cet attrait pour les sous-cultures, très rapidement, il y a Vice qui est venu me démarcher. À l'époque, et du coup c'était le premier magazine pour lequel j'ai commencé à taffer, donc ça m'a mis, voilà, un peu les deux pieds dans la culture gonzo, reportage, etc. Et c'est grâce à Vice que je me suis véritablement intéressée au journalisme, hors du prisme mode et esthétisme.
Donc Vice vient te chercher parce que tu as créé un groupe Facebook sur la Gazette du Mauvais Goût, ou je caricature?
Non, à l'époque, c'était un blog, la Gazette du Mauvais Goût. Et je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais fait un article sur des mecs qui portaient du mohair. Et en fait, c'était des fétichistes du mohair. Et ils se donnaient rendez-vous dans une sorte de maison et ils se tricotaient tous du mohair ensemble, et c'était un fétichisme à la fois sexuel et à la fois vestimentaire, enfin bref. Et le gars de Vice, je sais pas comment il m'avait repéré, je m'en rappelle plus exactement, mais il m'avait démarché, c'était Vice UK, en me disant mais putain, c'est vachement marrant, tu veux pas développer, enfin au lieu de faire un blog post à la con, fais un article pour Vice. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à faire des petits articles
et
pour lui, quoi.
Pour Vice,
voilà.
UK.
UK, ouais, okay. Exactement, UK. À l'époque, ils avaient pas racheté Heidi, ils avaient un truc qui s'appelait Vice Style, qui a complètement disparu. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que tous les articles que j'ai fait à cette époque,
ils sont plus accessibles.
Non, ils sont plus
c'est dommage
accessibles.
Parce que j'aurais bien voulu aller voir le sujet.
Ah bah, j'ai fait pas mal de sujets un peu marrants. En fait, il y a un moment, ils m'ont filé une sorte de rubrique qui était une rubrique beauté. Alors moi, j'étais en mode beauté, mais j'en ai rien à foutre de la beauté. Et du coup, je faisais que des trucs débiles. Par exemple, je me suis teint les poils de chatte en rose. Alors je me suis teint les poils de chatte en rose, en arc-en-ciel. Après, je faisais un tuto. Je faisais que des trucs débiles à longueur de temps à la Vice, quoi.
Et toujours avec cet esprit gonzo, et
ouais,
je me mets en scène pour raconter ce que je vis et ce
oui,
que les autres vivent.
Oui, ouais, complètement. Donc en fait, Vice m'a autorisé ça. Ensuite, j'ai eu un parcours, j'ai fait beaucoup de stages, pas mal dans la presse américaine, pour Nylon à l'époque, qui était un magazine très teen. J'ai fait pour Women's Wear Daily, qui était beaucoup plus industrie de la mode. Enfin, j'ai fait pas mal de stages à droite à gauche. Et puis quand je suis sortie de mes études, je voulais pas être journaliste. Je voulais travailler dans des bureaux de tendance. Ça, c'était mon rêve, en fait, pendant que j'étais dans mes études. Parce que j'avais toujours... je sentais que j'ai... Enfin, j'ai une synthèse assez facile, un truc d'analyse assez rapide. Et je voyais toujours que je me disais, mais putain, je grille les tendances 3 ans avant qu'elles soient en magasin, donc autant utiliser ce radar. Et je me suis fait embaucher par un bureau de tendance qui s'appelait le Future Lab en Angleterre. Et en même temps, en fait, ce qui a fait que je suis revenue en Paris et que je me suis vraiment mis dans le journalisme et que j'ai lâché les bureaux de tendance, c'est que j'avais postulé au Monde. En fait, le Monde, à l'époque, avait lancé un programme qui s'appelait le Monde Academy. Et le Monde Academy, leur but, c'était de recruter des profils atypiques et pas des profils Sciences Po. Ils espéraient sortir de ce recrutement très grandes écoles françaises.
Parfaite, tu répondais complètement.
Voilà. J'ai coup de bol, voilà.
À ce profil.
Exactement. Je leur ai envoyé une proposition. Alors moi, j'ai répondu totalement à l'arrache. Je me suis dit, c'est inaccessible. Jamais ils vont prendre quelqu'un comme moi. Et c'était un article, parce qu'à l'époque, c'était ma période où j'étais obsédée par les fétichismes sexuels loufoques. Et il y avait des mecs qui s'appelaient les Looners, qui étaient excités par les ballons de baudruche. Et il se frottait à des ballons de baudruche. Et,
il n'est pas accessible non plus, celui-là.
celui-là, il est peut-être accessible quelque part. Okay. Mais en tout cas...
Ouais, donc tu étais à fond sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde.
C'est ça.
Et c'est ce qu'ils cherchaient aussi, j'imagine.
Bah, en fait, oui et non, ils étaient un peu contradictoires parce qu'ils voulaient... Enfin, dans cette promotion-là, ils voulaient quelqu'un... Enfin, ils voulaient des gens
C'était
un peu atypiques.
Journalisme washing. Ils voulaient s'acheter une certaine...
Voilà, il y avait un peu de ça, sauf qu'en réalité, en fait, à la fin de la promotion, il y avait quelques postes à la clé. Alors moi, ils m'ont donné un prix, donc j'ai gagné de l'argent, mais j'étais quand même toujours trop atypique pour rentrer au Monde. Donc on m'a fait comprendre que...
Et tu l'as senti comment ? Ça se traduit comment ? C'est sur quoi ? À quel moment on dit t'es trop atypique ? Enfin, j'imagine que c'est,
on peut faire sentir
et qu'on te met pas dans un bureau en te disant t'es trop atypique, mais,
comment tu le ressens ? On te dit en fait on embauche pour le desk, voilà, et on te dit Dora t'as pas un profil desk.
On te dit ce que t'as pas envie d'entendre.
Exactement, donc évidemment j'ai pas un profil desk, c'est pas moi qui vais te faire de la news AFP toute la journée. Enfin, je pourrais, mais c'est pas là où est ma qualité. Je suis peut-être moins efficace que quelqu'un qui sait faire de la news AFP.
Quand Dora dit profil desk, ça veut dire profil au bureau qui ne sort pas et qui est journaliste devant son écran à réécrire des dépêches.
Exactement, c'est ça.
Donc oui, en effet, ça peut pas coller. Non, et du coup, ça, cette expérience-là, mais c'est ça qui te fait revenir à Paris.
C'est ça qui me fait revenir à Paris.
Sinon, tu serais encore en Angleterre.
C'est possible. Ouais. Franchement, c'est possible parce que le taf bureau de tendance, c'était assez passionnant.
Ouais.
Donc, ça me fait revenir à Paris. Je commence à piger à droite à gauche pour pas mal de magazines, que ce soit Glamour, à l'époque Uzbek Erika, quelques articles dans Stylist, un peu à droite à gauche. Et puis, mon blog, La Gazette du Mauvais Goût, était toujours disponible en ligne et je continuais à l'alimenter. Et je me fais embaucher par France 2.
Pour une chronique télé.
Ouais, pour une chronique télé. Donc
ça,
comment
pour
ça
le
va
coup,
bien
on peut voir encore quelques
on
extraits.
Peut voir. Alors ça, c'est absurde. Je me retrouve propulsée sur un plateau avec Stéphane Bern l'après-midi, l'émission de la ménagère. Je comprends pas ce que je fais là. Enfin, franchement, j'accepte parce que pourquoi pas après tout. Mais je me dis, mais quelle erreur de casting. Enfin, moi, je parle de trucs franchement assez hipster, quoi. Assez niche, assez. À ces cultures web, et eux, ils n'ont pas du tout une audience comme ça, donc je pense que leur volonté, était, tu vas faire en sorte que madame ait un truc à raconter, un peu gaulerie à son mari le soir, sauf qu'en fait ça marche pas trop, parce que je parle pas à la bonne audience, et que je pense que c'était un peu une erreur de casting de leur part, mais même, enfin moi je le vis
même
de façon amusante.
Même moi, tu te sens pas à ta place.
Non,
si.
Pas du tout. Ah non, je me sens pas du
mais
tout.
Mais tu t'éclates. C'est des bons moments.
Oui et non, pour être honnête, c'est compliqué.
C'est quoi le qu'est-ce qui t'éclate pas?
Ce qui m'éclate pas, c'est que j'ai une oreillette à longueur de temps et qu'on me dicte tout et qu'on me dit Dora souris, Dora pose une question, elle a une cigara, Dora non, Dora tiens-toi droite, Dora et quand je dis que je veux pas qu'on me maquille, si on va te maquiller comme Miss France, enfin. Alors, il y a un truc qui m'amuse, parce que je joue le rôle et je connais pas le monde de la télé, et du coup, je rencontre des gens genre Pierre Foucault, il y a tout un world m'amuse, en fait, qui est ce monde que j'ai regardé enfant à la télé, donc il y a quelque chose de très amusant là-dedans, et en même temps, je suis pas chez moi, quoi, voilà. Et c'était une expérience super, avec du recul, mais aujourd'hui, si... Enfin, si on me reproposait de faire ça, je dirais non. Parce que j'étais pas libre, en fait. Parce que j'ai l'impression d'être une... Enfin, j'ai accepté d'être la marionnette le temps que. Parce que ça, c'était une expérience intéressante, mais voilà.
Et vraiment que marionnette, il n'y a pas un moment où tu te dis « Je vais pouvoir profiter de cette fenêtre sur France 2 pour, parler de choses qui me tiennent à cœur de... ?»
C'était très compliqué, parce qu'en fait, celui qui dirige le plateau, c'était Stéphane Bern. Et du coup, c'est lui vraiment qui a la main sur la parole. Donc, il te la donne, il te la retire, etc. Et moi, j'avais l'impression que j'avais pas... Enfin, on me demandait pas d'être la fille qui remet les choses en question. C'est pas un plateau de remise en question, c'est un plateau lifestyle où on te montre dans le maquillage, la cuisine, le truc. Disons qu'un esprit comme le mien est dérangeant,
oui,
sur un truc comme ça.
Pardon, mais ça aurait pu être aussi un espace où on parle du plaisir féminin. Alors, tu vois, derrière, tu aurais pas pu avoir la même liberté de parole, ouais, que ce que t'as fait derrière, et on va en parler avec Tajoui, mais à aucun moment t'as senti que ça pouvait être un espace sur lequel on avait une parole libre. Ce que
non,
tu nous dis, c'est que la télé,
sens, en fait,
ça peut pas être une parole libre.
Non, je pense qu'il y a certains plateaux où il peut y avoir une parole libre, mais celui-là, ça a jamais été le but. C'est une émission, pas de journaliste, mais de divertissement déjà. Et quand on rentre dans du débat, c'est plus du divertissement. Donc on m'a pas recruté pour ça, on me l'a bien fait comprendre et sentir. Et mon rôle, c'était plutôt d'amuser la galerie avec des trucs what the fuck du web. C'était plus ça.
La petite jeune qui surfe sur Internet.
Yes, c'était ça.
Et du coup, après, tu pars chez Combini. C'est en parallèle.
Ouais, après, alors non, c'est pas en parallèle que je remette les choses en place. Non, après, je continue. Alors non, ce qui se passe, c'est que après ça, je me dis, en fait, moi, je veux faire du docu. Voilà. Je me dis chroniqueur, c'est pas mon truc.
Je veux prendre le temps.
Je veux prendre le temps et je veux faire un truc qui me plaît. Et en fait, à l'époque, j'ai l'intermittence du spectacle parce que,
Parce que t'as été chroniqueuse.
Voilà, exactement. Je me dis, je vais prendre ce temps-là et je vais essayer de développer un projet de série docu. Et en fait, à l'époque, mon rêve, c'était de vendre une série docu où j'allais dans différents pays qui étaient, en fait, des pays où la culture vestimentaire était en train de changer. Ce qui me passionnait, c'était le moment où il y avait encore un vêtement traditionnel fort et on était en train de basculer dans la modernité. Et je voulais raconter ces pays-là à travers leur culture vestimentaire.
Avec un basculement vers l'uniformisation, c'est-à-dire que tout le monde va finir par s'habiller pareil.
Oui, ouais, exactement.
Okay. Très joli sujet.
Voilà, donc moi je trouvais que c'était un sujet passionnant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai levé de l'argent en crowdfunding, j'ai une marque de jeans qui s'appelle Bonobo, une marque éthique, qui m'a financé une autre partie, et donc en tout j'ai eu 10 000 euros, et je me suis dit, je tourne un pilote, donc j'ai tourné un pilote au Maroc, parce que justement le Maroc c'est un pays en transition, et puis ensuite j'ai été voir des boîtes de prod, il y a une boîte de prod qui a essayé de le vendre en télé, mais ça a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on nous a reçus, mais la mode, nous on veut les rênes du shopping. Mais Dora, là, tu nous fais un truc d'anthropologue relou.
On veut du catwalk.
Voilà.
Et, ouais.
Exactement. Et il n'y avait que Arte qui aurait pu être intéressé, mais ils avaient déjà produit il y a quelques années quelque chose sur le vêtement qui n'avait pas non plus cartonné, parce que c'est quand même c'est assez compliqué quand on parle de vêtements de façon un peu culturelle.
Donc, ce que je comprenne bien, tu étais financé, mais tu n'as pas été diffusé.
Exactement, c'est ça. Enfin, le premier épisode été financé. Le pilote.
T'avais quand même besoin de fonds de la part de diffuseurs potentiels.
Oui, sinon je pouvais pas. Par épisode, il me fallait des fonds pour tourner, donc je pouvais pas le financer toute seule. Donc s'il y avait pas de diffuseur qui l'achetait, moi je pouvais pas je pouvais pas. Donc j'ai mis quand même presque 7 mois, 8 mois à mettre ça en place. Surtout que je ne connaissais pas du tout le monde de la prod, moi. Enfin, j'ai tout produit toute seule, j'avais que dalle, j'avais jamais monté un truc. Enfin, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et au final, c'est tombé à l'eau. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé que c'était déjà une super expérience. J'ai appris
et ça
à
te sert aujourd'hui pour ton docu.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur, en fait. Ouais. C'est en allant vendre cette idée-là que j'ai rencontré mon producteur, qui à l'époque, lui, m'avait dit, c'est pas notre truc, mais si un jour t'as d'autres sujets, tu sais quoi, je suis open, reviens vers moi. Et je suis revenue vers lui des années après. Donc voilà, mais après
ça a été utile.
Très utile.
De toute façon, tout est utile.
Tout est utile, c'est ça. Et ensuite, après cette expérience-là, je me suis fait embaucher chez Combini. Combini qui m'avait... Alors ça aussi, c'était marrant. Combini qui avait entendu parler de moi parce qu'ils avaient vu mon trailer sur le vêtement autour du monde, sur Facebook, tourné. Et un gars qui était DA à l'époque m'avait dit « Ah, viens, passe, nous, on veut faire des vidéos mode chez Combini. » Et j'étais venue le voir. J'avais rencontré par ailleurs le mec qui était directeur adjoint à l'époque. Et par hasard, il y avait un poste de rédac chef adjointe qui se libérait. La meuf s'était barrée... je sais pas, assez rapidement. Mmh. Et du coup, concours de circonstances, ils m'ont proposé le poste parce que bon, ils savaient la Gazette du Mouégou que j'avais un, voilà, que j'avais déjà pas mal de, enfin, taffé en ligne, que je connaissais bien le journalisme web. Et du coup, ben, pendant presque 2 ans, ouais, j'ai été rédac chef adjointe.
Et là, chez Combini, c'est du desk, non?
Ouais, c'est principalement du desk chez Combini, clairement. Mais
pourquoi avec Combini? Tu accordes 2 ans de ta vie et comment ça se passe et...
Alors déjà, parce que... Alors, si tu dis totalement pourquoi...
C'est bah parce oui, c'est que, l'idée.
Voilà. En fait, à l'époque, quand j'ai lancé la Gazette du Mauvais Goût, c'était le début de BuzzFeed. Ouais. Voilà, donc j'ai vu... En fait, BuzzFeed était presque un blog de merde, vraiment. Et j'ai vu ces gens qui avaient des petits blogs créer des sortes de mastodontes d'Internet. Et moi, je me suis dit... J'ai loupé le coche. Enfin, j'avais un...
Pendant que je faisais mes chroniques sur France 2.
Mais complètement. Je me suis dit, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris dans comment on fait pour... Parce que Combini aussi, enfin, c'était des petites vidéos, et puis ils ont commencé en faisant un petit blog, et puis c'est devenu un truc énorme. Et en fait, j'avais la frustration de ça, du genre, non, mais faut que je comprenne, tu vois. Faut que je comprenne c'est comment ça fonctionne, en fait, en termes presque de business derrière moi. Et en fait, en parallèle, l'année d'avant, quand j'avais fait la série docu, que j'avais essayé de vendre, j'ai repris des études, j'avais fait l'Institut français de la mode, de la mode en business et entrepreneuriat, parce que j'étais déjà en train de me dire, bon, c'est très bien d'être journaliste, mais ma fille, tu comprends rien en business, ça va pas du tout, quoi. Enfin, en fait, tu comprends pas la monétisation des médias, et il y a un moment, si tu veux être libre, il faut savoir monétiser, et là, il te manque un truc. Donc, j'étais déjà un peu dans cette réflexion-là, et du coup, quand Combini arrive, je me dis, ah bah c'est génial, je vais enfin comprendre le business derrière un truc pareil, parce que le contenu, je sais le faire, le monétiser, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressée. Et puis, je voulais aussi savoir si, au niveau de... En fait, comment fonctionnait la machine à buzz? Est-ce qu'il y avait... Enfin, parce qu'il y avait ce mythe de l'algorithme qui choisit les articles. Et je voulais savoir si c'était vrai. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Tout se fait à l'intuition. Évidemment, il y a des revues de chiffres, mais c'est pas ça qui fait qu'on décide de faire tel ou tel sujet. Donc ouais, moi c'était vraiment...
Et tu gardes un bon souvenir de ce passage?
Ouais, franchement, non. Oui. Ça s'est pas toujours bien passé avec tout le monde, honnêtement, notamment avec un mec en particulier qui avait des avis bien trop sexistes pour moi. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un super environnement de travail. C'était très agréable d'y travailler. C'est une équipe jeune, super sympa, super motivée. Des gens gentils
donc,
aussi.
Ouais,
et donc, ça, c'est bien.
Bon, à part avec une personne, ouais. Tu n'as pas ressenti... l'effet ligue du lol qui peut y avoir dans les qui a pu avoir dans les médias
non
en
je dirais
ligne
qu'il y avait un mec
web
type de ligue du lol voilà ouais. Il y en avait un qui était là et qui n'y est plus mais à part ça non les gens étaient pas du
ouais.
Tout
t'as ressenti de la bienveillance
ouais,
et de l'envie
complètement.
De
complètement après il y a aussi des limites il y avait des limites à ma liberté d'expression quand même c'est-à-dire que j'aurais pas pu faire ta jouie chez Combini.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, Combini, ils ont toujours été... Enfin, c'est plus un média qui fait du relais. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent relayer quand t'as joué, mais c'est pas eux qui se positionnent. Enfin, disons que... C'est
un
statement
trop grand.
Tu penses
pas que c'est en train de changer, ça ? Parce que... moi, j'ai le sentiment que... Il y a encore 10 ou... 10, allez... peut-être pas 10 ans, il y a encore 5 ans,
ouais.
Un média pouvait pas assumer tout par rapport à, justement, son business model,
ouais.
À ses relations annonceurs et tout ça. Mais que finalement, on rentre dans un monde de l'impact,
ouais.
du sens, et que finalement, le message qu'a diffusé Tajoui auprès de plein de femmes en France, il a un impact, il donne du sens. Et que donc, finalement, y a sûrement des marques qui auraient envie de s'associer aussi à ce type de message. Non, je me fais
Alors,
des illusions.
Non, moi, j'aimerais croire que c'est vrai, mais je peux te dire que c'est pas si simple, parce que moi-même, je me pose les questions sur la monétisation de Tajoui aujourd'hui, et que des marques qui sont prête à être 100% engagée dans mon message, c'est pas si simple à trouver au final. Donc je comprends la réticence d'un certain nombre de médias, même si à titre perso, moi je pense que quand t'es rédac chef d'un truc, t'es là pour transporter des idées auxquelles tu crois. Je dirais que dans la culture française du journalisme, on n'en est pas encore là, tandis qu'aux États-Unis, il y a plus de jeux. Déjà, dire « je », s'engager à la première personne, c'est déjà difficile dans le journalisme à la française. Il faut toujours se cacher derrière ce truc de... un regard neutre, voilà. Cette histoire du regard neutre, moi, ça m'agace.
Cette histoire d'objectivité.
Ouais,
c'est ça. Mais qui disparaît, finalement, de beaucoup de... Enfin, quand tu regardes, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui, justement, ne veulent plus être objectives et qui même s'engagent politiquement. La plupart des médias sont engagés aujourd'hui. Mais je comprends ton point. Tu as fait la transition toute seule avec ta Jouisse, j'allais y venir. Ta Jouisse, ça commence, tu es encore chez Combini ou tu
non,
es déjà partie?
Non, je suis déjà partie de chez Combini. Ça fait 8 mois, 8-9 mois que je suis partie de chez Combini.
Et ça commence, alors je ne sais pas si c'est du storytelling, mais moi, tout ce que j'ai lu, ça commence avec... Une réflexion désagréable d'un mec, c'est ça?
Non. Alors oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, des mois avant, j'avais eu une date avec un mec, une date Tinder, quoi, un truc à la con. Et le mec s'était mis à me raconter, il s'était mis à m'expliquer que les femmes jouissaient peu parce qu'elles étaient beaucoup plus cérébrales, intellectuelles, etc. Et en fait, ce qui était délirant, c'est que le mec disait « Mais moi, je suis une fille, moi,
c'est
je vais
t'expliquer. »
C'est
très sympa pour les mecs, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas cérébraux.
Oui, effectivement. Et lui, il me disait « Oui, mais moi, toutes mes potes, elles me disent ça. » Enfin, il essaie de me contrer tout le temps lorsque j'ai envie de dire « Mais t'as une femme en face de toi qui, elle, te dit autre chose, donc écoute. » Donc moi j'ai commencé à lui expliquer que si les femmes jouissaient moins, c'est que c'était pas ça la raison, mais qu'il y en avait tout un tas d'autres raisons. La première raison, c'était la méconnaissance de notre propre anatomie en tant que femme, et par conséquent, les hommes aussi connaissent très mal notre anatomie. Et que deuxièmement, il y avait tout un tas d'injonctions à être belle, à être mince, à avoir une chatte en forme de pêche, à avoir tout un tas de trucs qui font que, en fait, on se regarde coucher. On peut pas être dans notre corps. On est le spectateur de l'acte, les spectatrices de l'acte, et que par conséquent, se lâcher dans l'acte pour une femme, ça, c'est encore plus. Je pense que c'est encore plus difficile que pour un homme. Et quand je lui disais ça, il me disait « Mais pas du tout. » Donc, je suis partie de cette date assez furax, quoi. Parce que je me dis,
mais il t'a aidé à construire tout un discours.
Exactement, il m'a beaucoup aidé, ce garçon. je le remercie. ça m'est resté dans la tête, mais j'en ai pas fait un plat non plus.
D'accord.
Je me suis dit « Bon, qu'importe. » Et en fait, j'en ai parlé aussi à des copines un peu autour de moi. Pas de cette date-là, mais en fait, je m'amusais souvent à demander à mes copines, quand elles me racontaient, elles me disaient « Ah, mais j'ai rencontré ce mec, et on a niqué, on a fait ceci, cela. » À la fin, mes copines avaient tendance, des fois, à raconter des choses un peu de façon peut-être grandiloquente ou en faisant genre que « Waouh, c'était un truc de ouf. » Et à la fin, je m'amusais à dire « Ouais, mais attends... »
Mais en vrai.
Mais en vrai, ouais, c'est ça. Mais en vrai, enfin... T'as eu du plaisir, t'as joui. Et la plupart de mes potes me disaient « Ah mais non, mais moi je jouis pas. Moi je joue jamais avec un mec. » Et j'étais là, alors arrête de me raconter ton truc. Toi, tu me racontes un film de cul, mais t'as pas kiffé en fait. Enfin, c'est génial. Et ça m'a aussi... Je me suis dit « Mais attends, y a un truc qui tourne pas rond, quoi. » Et ce qui s'est passé au final, c'est que le 15 août 2018, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de passer un coup de gueule en story sur mon compte perso. Enfin, je sais même pas, je me suis levée avec une envie de dire quelque chose là-dessus. Et donc, j'ai parlé de jouissance féminine et du problème que je voyais. Et là, ça a été une folie furieuse. C'est-à-dire que j'ai eu, pourtant, c'était une petite communauté. Hein. J'avais sur mon compte perso 2000-3000 personnes. Et là, j'ai reçu à peu près 100 messages de femmes dans la journée qui me disaient moi, ça fait 7 ans que, ça fait 7 ans que je suis avec mon copain. J'ai jamais joui. Je me suis embrigadée dans un mensonge parce que je simule. Comment rétro-pédaler j'ai jamais joué avec un homme. J'arrive à jouir toute seule. Mais pourquoi j'arrive pas? Bon, bref, plein de messages. Et je me suis dit, mais attends, je suis vraiment pas seule à penser qu'il y a un souci. Et en plus de ça, j'ai l'impression que je mets le doigt sur un truc qui est ultra tabou et dont les femmes ont envie de parler. Donc je me suis dit, soit j'en fais un article, que j'essaye de vendre voilà, un média, mm-hmm. qu'importe, ou je le mets sur Medium, bref. Ou soit sinon, j'en fais un compte Instagram, parce que je voyais qu'il y a de plus en plus de témoignages qui arrivaient, donc je me disais, c'est une façon de les archiver.
Ouais, et puis de les repartager derrière.
De les repartager.
En respectant l'anonymat, mais...
Oui, ouais. Tout à fait. Donc du coup, j'ouvre le 15 août ce truc « T'as joui ». Voilà. Mais vraiment, le truc à l'arrache, hein. Je me dis tac-tac, je le fais. Et le truc qui est délirant, c'est que j'annonce juste sur mon compte perso en disant bah voilà, j'ai lancé ce compte Instagram. Et dans la journée, je passe de 0 à 10 000 followers. Mais j'ai rien fait.
Dans la journée.
Et que des meufs qui stagnent dans les posts. Elles regardent et machin et la story. Et le truc est complètement. Moi, je vois les chiffres défiler.
Ouais, donc, preuve que tu réponds à une vraie, un vrai questionnement.
Un vrai questionnement.
Et pourquoi t'as joui ?
Parce que moi, j'ai toujours trouvé que c'était une question un peu...
On a compris que tu savais créer des mots, parce que tu essayais déjà de créer des prénoms. Et,
voilà.
du coup, tu sais créer des marques.
Exactement.
Mais,
parce que je trouvais que c'était toujours un peu une question hypocrite, en fait, t'as joui. Parce que, dans le fond, quand quelqu'un te pose ça... Enfin, quand une femme jouit, ça se voit. Enfin, ça se voit ou ça s'entend ou ça se ressent.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Et donc alors pardon, ouais. Moi, avec ma perspective de mec, donc sûrement peut-être un peu maladroit, mais je me disais que c'était au contraire que tu voulais inciter les hommes à s'enquérir du plaisir féminin. Et est-ce que ma partenaire a joui à se poser la question de manière concrète à chaque rapport.
On peut le voir dans les deux sens. Pour moi, t'as joui, c'est un peu c'est cynique. Enfin, la façon dont j'ai écrit le truc, c'est t'as joui, j'ai eu l'air. voilà. Donc, c'est un peu cynisme.
Ok. Voilà. De toute façon, est-ce que c'est un compte que tu crées en te disant justement par rapport à tous ces messages de femmes que tu reçois, en te disant bah on va créer un safe space entre nanas et on va parler du plaisir féminin, ou dès le départ tu te dis c'est un compte qui doit et ça serait bien qu'il parle à tous quoi.
Dès le début, non, moi au début je me dis j'archive des trucs. Enfin voilà, j'ai aucune ambition. Voilà. J'ai pas d'ambition, je lance un truc, je me dis. Enfin, en fait, moi j'ai 15 comptes Instagram. Hein. Avant qu'un fonctionne comme ça, ça a pris des années, on va dire. Donc je suis quelqu'un qui archive tout. Donc j'ai un Pinterest, un Tumblr, j'ai 15 Tumblr, 15 Pinterest. J'ai des trucs sur tous les sujets, sur les thèmes. J'ai un Tumblr sur les tapis, par exemple.
Donc, à part l'article sur le mohair qu'on retrouvera pas, sinon tu gardes tout.
Ouais, je garde tout. J'archive quoi. Donc là, c'était juste une archive de plus, tu vois. Par exemple, j'ai un autre compte que sur les fleurs. J'archive les agriculteurs de fleurs parce que il faut que j'ai envie de les retrouver. Bon. Et là, je me dis, je fais une archive de plus quoi. Voilà, ça se trouve, j'ai 400 followers comme sur plein d'autres de mes archives. Donc, j'ai pas d'ambition.
Ouais, t'as pas d'ambition. Tu te dis pas, je vais aider des gens.
Pas du tout. Pas du tout. Et quand ça prend, là, je me dis, ah, ok. Et je me rends compte que qu'en fait, ce qui semble des évidences pour moi, ça ne l'est pas pour plein de femmes. Et qu'en fait, moi, j'ai l'impression de raconter certaines banalités. Par exemple, un truc que je dis et qui marche énormément et que les femmes se sont mises à partager, c'est je dis, oui, mais quand le mec, il a fini l'acte et qu'il jouit, la plupart des hommes pensent que si toi t'as pas joui en tant que femme, c'est pas grave, le mec s'endort à côté, le truc est terminé. Et je dis tout simplement pourquoi, c'est pas normal en fait, moi je suis frustrée à côté, ça me fout le seum en vrai, quand je vois le mec ça, j'ai envie de le fracasse quoi, j'ai envie de dire pourquoi. Et surtout quand tu laisses un mec en galère, là tu en entends parler jusqu'à la fin de la vie, hein. C'est je peux pas faire ça, mais ça se fait pas, machin, tandis que lui il se dit pas que ça se fait pas. Donc je dis tout simplement ça, et là, prise de conscience de plein de femmes, mais en fait c'est ouf, les mecs ont toujours fait ça avec moi et je n'ai jamais rien dit. Et même des mecs qui m'écrivent qui me disent mais je me suis toujours comportée comme un énorme enculé en fait. Et j'ai même pas pensé que c'était une phase de bâtard.
Et pourquoi toi justement tu as déjà cette connexion qui est faite dans ta tête, c'est ton éducation, c'est...
Je crois que je me suis intéressée à la sexualité assez jeune. Il y avait un blog sur le clitoris quand j'avais 14 ans, vraiment. Voilà, moi, c'était l'époque Caramel, et puis je crois que j'allais sur Lycos à l'époque, c'était même pas Google, tu vois. Et j'avais déjà tapé clitoris, enfin, je sais pas. Moi, je regardais vachement mon anatomie quand j'étais. Enfin, je sais pas, c'est un truc
qui. Curiosité.
Ouais, curiosité. Et aussi un peu un stress. Moi, il fallait que je. Enfin, avant que je couche avec quelqu'un, il fallait que je comprenne de quoi il s'agit. Enfin, voilà, comment j'étais foutue, etc. Il y a ça, et puis aussi le fait de m'intéresser en fait à beaucoup de fétichisme sexuel en fait, d'avoir pour des reportages, j'ai été dans des soirées SM, j'ai exploré pas mal de trucs où je me suis rendu compte qu'il y avait des milieux où il y avait beaucoup plus d'ouverture d'esprit et des milieux où il y avait plus de respect, par exemple notamment le milieu SM où on peut penser que c'est ultra gore, sadomaso, etc. Je me suis rendu compte que là-dedans les hommes avaient généralement plus de respect en fait pour les femmes et beaucoup plus de politesse que dans une soirée basique. Mmh. Et du coup, je pense que tout ça, ça m'a fait remettre en question pas mal de notions dans la sexualité et que c'est un truc qui m'a travaillé, quoi.
Pas mal de concepts un peu préétablis.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, le compte d'école, tu dis, de 1000 personnes dès le premier jour. 10 000, pardon. Ouais, c'est tellement énorme que je n'y arrive pas. Et du coup... à quel moment tu te dis bon il faut faire quelque chose de cette histoire-là? Est-ce que tu lui donnes une ambition ou tu l'as toujours traité de la même façon, c'est-à-dire je dis ce que je pense et je relaye ce que je trouve cohérent dans ce que vous me racontez ou...
Non, ça devient une ambition. Quand on commence à avoir 10 000, 20 000 personnes, je me dis, ok, là en fait y a un truc à faire et là, moi-même, je me dis, il faut vraiment que j'alimente. Enfin, il faut vraiment que je pousse le compte. Du coup, je cogite vachement sur ce sujet-là. Et j'ai plein d'autres idées qui viennent en tête. Et j'ai envie de m'amuser à faire des mèmes. Je commence à faire des mèmes débiles. Je regarde les hashtags qui existent déjà dans le monde anglophone. Je tape hashtag clito, hashtag feminine pleasure. Enfin, je commence un peu à diguer, en fait, en me disant, mais attends, qui sont les influenceuses sexo? Enfin, je commence vraiment à m'intéresser de près à ça. Et peu à peu, je me dis, j'ai envie que ce soit un compte sexo, mais ce qui est important pour moi aussi, c'est que ce soit un compte avec des valeurs féministes, en fait. Parce que ce qui finalement m'intéresse, c'est dans cette sexualité finalement post-MeToo, comment on redéfinit les lignes de l'égalité au lit, en fait, dans l'intimité. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de gagner les combats dans la vie publique, mais dans la vie privée,
comment ça se passe,
hein. Comment ça se passe, c'est encore finalement assez archaïque. Enfin, les rôles sont encore relativement archaïques. Et comment on amène ce débat, en fait, jusque dans la chambre. Et c'est ça l'idée qui commence un peu à se développer dans ma tête. Et je me dis, en fait, ça va être le fil conducteur de ce compte.
Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui suivent le compte Tajoui?
420 000.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un moment où ça a pris toute ton énergie, toute ton attention?
Ouais, les premiers mois. Déjà, il y a eu un buzz médiatique. J'ai dû répondre à énormément d'interviews de télé, etc. C'était super chouette, mais tout d'un coup j'avais l'impression de me retrouver représentante du clito français. C'est un rôle
Tu l'as ressenti dans ton entourage, dans ta famille, t'as eu un peu ce côté-là, ce jugement de c'est toi là, madame clitoris?
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Alors c'était assez marrant, mes parents ils étaient là, mais qu'est-ce ils comprenaient pas comment je m'étais retrouvée là-dedans, mais même moi, c'est-à-dire que j'ai jamais été journaliste sexo, quoi. Enfin, donc j'avais pas d'ambition à la base.
Et t'as eu un peu un syndrome imposteur ou pas? À te dire justement, comme tu dis, j'ai pas fait d'études particulièrement sur le sujet, c'est plus la curiosité et du renseignement
En fait, non, parce que finalement, la sexualité, pour moi, ça appartient à tout le monde. Il y a beaucoup de bon sens, finalement. Et je pense que juste la qualité que j'ai comparée à d'autres gens, c'est que j'ose casser les tabous, j'ose dire ce qui se pense, ce qui se dit tout bas ou se pense mais ne se dit pas. Et finalement, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Enfin, c'est aussi créer du débat. J'aime bien créer du débat. Donc, c'est mettre les choses sur la table et dire, ben, au lieu de les ignorer, voilà, on va en discuter. Donc, c'était plutôt ça. Donc, j'ai pas l'impression d'être un imposteur dans le sens où je donne pas des conseils sexo pratiques. Je vais pas dire, tu mets le doigt là et tu fais ça.
D'ailleurs, tu réponds souvent en story ou en message, je suis pas de votre psy, je suis pas votre psychologue, votre sexologue, pardon.
Non.
Et ouais, mais c'est assez important, ça, je pense aussi. Dans,
oui.
T'as beaucoup de, du coup, de, dans les 420 000 ouais. personnes qui te suivent, tu as sûrement des gens qui sont en demande de conseils, d'attention, ou même dans des urgences.
Je... Dans des urgences, ouais. Alors, ce que j'ai découvert et qui est quand même très triste, c'est que derrière cette vitrine un peu fun qui est ajouie avec un peu avec humour. En fait, la plupart des messages que je reçois, je dirais 50 à 60% des messages que je reçois sont des messages qui parlent de violences sexuelles. Et la plupart du temps, les femmes me posent des questions sur... en fait, il m'est arrivé ça. Est-ce que je me suis fait violer ? Voilà. Ça, c'est une question très, très régulière qui revient. Et en fait, aujourd'hui, vu que moi, je ne suis pas une professionnelle là-dedans, le problème, c'est que les gens, ils veulent me parler à moi. C'est-à-dire que quand je...
Oui, parce que tu incarnes aussi.
Voilà. Donc, je me retrouve dans la situation aujourd'hui où je pense à monter une équipe pour mieux m'entourer, peut-être de plusieurs sexologues, avec un avocat, etc., pour pouvoir mieux orienter les gens, déjà dans ce genre de situation de violence sexuelle, et aussi pour plein d'autres questions sexo, enfin, diverses et variées. Mais ce que je trouve choquant, au final, c'est que l'État ne fait pas grand-chose, finalement, pour que les violences sexuelles n'arrivent pas, ou bien qu'elle soit prise en charge une fois que c'est arrivé. Parce qu'il y a il y a le planning familial. Mais le planning familial, aujourd'hui, souffre d'un problème d'image. Déjà, planning familial, on peut m'expliquer qu'est-ce que c'est
wording.
Que ce nom. C'est ça.
Toi qui attaches l'importance à la création
familial, des noms. Planning familial, enfin genre...
Ouais.
Tu fais un planning d'une famille, je comprends pas ce que ça veut dire, en fait, déjà. Et les femmes n'y pensent que quand elles sont en situation d'avortement, finalement. Et il n'y a personne entre, donc, le moment où il t'arrive une merde et la blouse blanche du médecin, ou sinon la police. Et finalement, j'ai l'impression que les comptes comme le mien, ou les comptes du genre « Je m'emballe clito »,« Gang du clito » et autres, sont des comptes qui font le tampon, en fait. C'est-à-dire qu'avant de se rendre à la police, avant d'aller voir un médecin, des fois, tu as besoin d'encouragement ou tu as juste besoin d'empathie, en fait, ou de redirection. Et aujourd'hui, vu que le planning familial ne peut pas... n'a plus l'aura pour accueillir ce genre de gens. Aujourd'hui, nous, on fait un peu un truc d'utilité publique sur Insta. Et aucune de nous n'est financée pour ça. Enfin, il y a un truc qui n'est pas très juste, en fait.
Donc, en fait, au départ, il n'y a pas d'ambition, mais aujourd'hui, de facto, tu es utile et tu te sens un rôle.
J'ai l'impression que le rôle, je ne l'ai pas choisi, mais, je l'ai pas choisi, mais c'est devenu mon rôle.
Il est apparu.
Ouais, c'est ça. Donc
tu parlais tout à l'heure de ton entourage, de tes parents et tout ça. Justement, moi, je suis assez admiratif parce que quand tu crées ça, tu sais que ça va... je viens de mettre un Nike kick au micro. Quand tu crées ça, justement, tu sais pas vraiment où ça va aller. Mais au final, ça a un impact très fort sur ta vie privée,
bien sûr,
sur ta vie personnelle, sur ton entourage, toi-même, j'imagine, sur ta propre sexualité.
Bien sûr.
Comment aujourd'hui tu vis avec ça ? C'est-à-dire, comme tu l'as dit, de devenir Madame Clito pour 500 000 jeunes femmes ou jeunes gens en France ?
Avec mes parents, au début, c'était surtout... Enfin, ma mère était là, mais comment tu sais tout ça ? C'était ça, elle était en mode, mais même moi...
Mais moi, c'est pas moi qui t'ai appris ça.
C'est un petit peu côté ça. Oui, c'est ça, genre, c'est pas moi qui t'ai appris.
Enfin, surtout, ne dis pas que c'est moi qui t'ai appris ça.
Un peu. Donc, ma mère avait un peu cette réaction-là. un peu interloqué. Mon père, alors très marrant, très fier. Mon père raconte à tout le monde j'ai une fille féministe, voilà. Donc plutôt mignon, ouais. On va dire. Au début j'avais un peu peur. Il me dit mais tu fais quoi en ce moment? Et du coup je commence à dire j'ai fait un compte Instagram, non, parce que je passais sur France 5 et du coup je voulais quand même lui dire quoi, de regarder le truc sur France 5. Ma grand-mère elle comprend. Elle me dit mais c'est de quoi tu parles ma fille. Enfin elle comprend. Ouais. Voilà, j'ai essayé de lui expliquer mais j'ai l'impression qu'elle elle comprend sans... Enfin, je sais pas si elle veut pas comprendre. Enfin, je sais pas trop, en fait. J'ai jamais essayé trop de rentrer dans le sujet. Et puis, moi, dans ma vie privée, je dirais que ça effraie beaucoup les garçons. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dora, c'est la pression, quoi. C'est pas évident. Et actuellement, je dirais pas que mon copain le vit toujours très bien, parce que du coup ça lui crée un stress, parce qu'il y a énormément d'hommes aussi qui viennent me parler vis-à-vis de leurs problèmes, et du coup lui il me dit comparé à une meuf normale t'as 1000 fois plus de sollicitations.
Donc c'est de la jalousie.
Je sais pas si...
Non, enfin de la jalousie, ouais, c'est
une inquiétude, ouais. Ouais. Mais lui il se rend pas compte que la plupart du temps c'est pas de la drague, c'est les gens viennent me parler parce qu'ils ont un problème, quoi, vraiment. Donc non, c'est pas toujours très facile à gérer, mais dans l'ensemble, les gens sont très bienveillants. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de filles, par exemple, qui viennent me parler dans la rue en me disant « Ah, mais c'est génial, merci beaucoup. Grâce à ça, j'ai pu parler de ça à mon copain. Je m'en suis servi comme médium. J'ai envoyé le compte à jouer. » Je lui ai dit « Ah, va regarder. » Et puis,
donc, voilà. Ouais, t'as des retours qui font que c'est hyper gratifiant, ouais. Et que ça t'apporte de l'énergie.
Complètement, c'est ça. Mais ça m'en prend aussi. Voilà.
Ouais, j'imagine. Du coup, aujourd'hui, ton actualité, elle est à la fois sur ce compte, mais aussi sur un autre compte que tu as créé, ouais. Qui s'appelle Hacker ses intestins. On en parlait au tout début de l'interview, qui est plus sur un sujet de santé.
Ouais.
Alors, moi, j'ai retenu un acronyme barbare, SIBO.
SIBO.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que SIBO, comment ça arrive dans ta vie? Et pourquoi, du coup, parce qu'on comprend de chaque cause ou chaque élément qui arrive dans ta vie, tu donnes une caisse de résonance et tu en parles. Comment ça arrive dans ta vie et comment ça devient un compte Insta, un livre, un docu?
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu à peu près 20, 22 ans, j'ai commencé à ballonner tout le temps. C'est-à-dire que quoi que je mange, j'ai commencé à avoir le ventre extrêmement tendu et puis plein de gaz, hein, vraiment. Et je suis devenue, mais genre, une usine à gaz. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai mis ça sur le compte, la malbouffe, etc. Mais finalement, j'ai essayé de manger sainement et je me suis dit, en fait, ça change rien. J'ai commencé un peu à me dire, je crois qu'il se passe quelque chose, enfin, un truc qui ne va pas. Et j'ai été voir de très nombreux médecins qui m'ont tous dit, vous avez une colopathie fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle, c'est le terme fourre-tout quand on n'a pas une maladie organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cancer du côlon, on n'a pas une maladie de Crohn, on n'a pas une maladie cœliaque. C'est-à-dire que ta paroi intestinale, elle est intacte. On voit aucune, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de problème.
Tu ne rentres pas dans les cases,
voilà. Tu as une colopathie fonctionnelle et c'est quand même 15% de la population française et 15% à peu près partout dans le monde, dans tous les pays modernisés, on va dire. Et pour moi, c'était un peu un non-diagnostic parce qu'en fait, colopathie fonctionnelle.
On a mis un mot sur un truc, mais ça règle
rien. Ça veut dire, on ne sait pas. C'est quoi? Ça veut juste dire ça. Et c'est juste un tas de symptômes, mais il n'y a pas de test pour la colopathie fonctionnelle. C'est un faux diagnostic, si on veut. Et le fait qu'on me dise sans arrêt que c'était dans ma tête, il y a un moment, j'ai commencé à trouver ça intolérable, invivable, psychosomatique. Et lorsque j'avais vraiment pour moi, physiquement, j'avais envie de dire, je peux remplir des galons d'air, quoi. Enfin, c'est du délire. Enfin, venez voir, parce que je vous assure que si c'est dans ma tête, alors je suis complètement... je suis bonne à interne et pour de vrai, quoi. Et j'en ai énormément souffert. Ma vie sociale est devenue un cauchemar. J'étais avec un mec à l'époque, il m'a quittée en partie pour ça, parce que... Parce qu'il commençait à me trouver dégueulasse, tout simplement, parce que je passais ma vie aux toilettes, que je prenais mon ordinateur et je travaillais aux toilettes, qu'il trouvait ça complètement crade. Enfin bon, tout s'est détérioré. Travailler dans un bureau, c'est devenu extrêmement compliqué. Ça m'a créé aussi beaucoup de dépression, parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ta vie s'écroule plus ou moins.
Ouais,
et puis c'est un problème.
Isolé,
Et puis c'est un problème qui fait mal, et socialement parlant, c'est quand même ultra tendu, quoi. Je me suis dit que bah, je pourrais plus jamais avoir de mec de ma vie. Enfin, tout est devenu un cauchemar. Et puis, est arrivé un moment où je me suis dit, bon, ça suffit, je veux plus écouter ce que me disent les médecins. Moi, je reste pas une usine à gaz pour le reste de ma vie, non. Je vais trouver les solutions. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un à profil artistique, littéraire, voilà. Et je me suis dit, on m'a fait croire que j'étais peut-être pas très douée dans des matières scientifiques, mais je m'en fous, c'est peut-être pas vrai. Et j'ai commencé à acheter énormément de livres de biologie, de nutrition, et à me dire, ok, on va comprendre comment fonctionne l'intestin, déjà de 1, hein, parce que les médecins font pas cet effort
de vulgarisation,
parce qu'on te donne des médicaments, en fait, t'as rien compris à ce que t'avais, donc t'as aucun contrôle sur toi. Et surtout, je me disais, si jamais c'est psychosomatique, si je comprends le fonctionnement, je pourrais placer mon esprit au bon endroit pour le réparer. Donc il y avait deux trucs, il y avait ça, je me disais, s'il y a une force de puissance de l'esprit, il faut savoir la diriger. Donc je me suis dit que j'allais comprendre, et en fait au fil de mes recherches, je tombe sur une pathologie qui s'appelle le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui veut dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Et en fait, à partir de là, je comprends que les gaz sont créés par des bactéries. En fait, quand on ballonne comme ça, c'est pas nous qui créons tous ces gaz, c'est l'interaction entre les bactéries de notre intestin et l'aliment. L'aliment arrive, la bactérie la grignote, et quand une bactérie grignote un aliment, et c'est normal d'avoir plein de bactéries dans le côlon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle produit en fait plein de choses qui nous aident. Elle va produire par exemple des antidépresseurs, des vitamines, des acides gras, enfin plein de choses en fait qui sont bénéfiques et qui vont aller dans notre sang et qui vont en fait faire partie de nous, tout simplement. Donc on est vraiment les micro-organismes et nous, on peut pas vivre l'un sans l'autre en fait. On est ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire qu'on a à la fois un génome humain et un génome bactérien. On est la somme des deux. Donc déjà, je comprends ça commence à me passionner. Je me dis, au-delà du fait que je pète tout le temps, en plus de ça, c'est vachement intéressant. Et mes gaz, en fait, sont des co-créations. Alors ça, moi, ça m'excite totalement. Je me dis, putain, mais c'est génial cette histoire et tout. Et je commence à me passionner par ça, non seulement pour me soigner, mais pas que. Parce que aussi, je tiens une certaine fierté à me dire, ah mais putain, toute ma vie, j'ai cru que j'étais naze en science. Mais pas du tout, en fait. Genre, je comprends tout. C'est fou. Enfin, je me mets à lire quelques livres de biologie, et puis je commence à m'acheter des livres destinés aux médecins. Et en fait, je comprends les livres destinés aux médecins. Et je me dis, mais c'est un sketch, en fait. Et ça, on en revient à cette histoire de l'école où on m'a fait croire que j'étais ultra naze. Et là, je me rends compte que non, en fait, je suis juste quelqu'un d'autodidacte, et que si je décide d'apprendre un truc, il n'y a aucun souci. Donc, je pars dans là-dedans. Et donc, je découvre cette maladie, et je me dis, ça ressemble quand même vachement à mon problème. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, les bactéries doivent être dans le côlon, parce que c'est l'endroit en fait où nous on a déjà absorbé les nutriments qu'il faut, et du coup, ce qui reste et que nous on n'a pas absorbé vont aux bactéries avant de, enfin une fois qu'elles ont grignoté, ça ressort par l'anus, le caca, quoi. Sauf que ce qui se passe dans certains cas, c'est que ces bactéries remontent dans l'intestin grêle, et donc elles abîment l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est l'endroit où on absorbe les aliments. Et donc, ça crée déjà une paroi inflammée. Et en plus de ça, une fois que l'aliment arrive, au lieu de pouvoir être absorbé tranquillement avant d'arriver aux bactéries, les bactéries les dégustent ça immédiatement et créent des gaz, en fait, littéralement une demi-heure après d'avoir avalé quoi que ce soit. Donc, ça crée un ballonnement constant, une fermentation constante. Et ce qui se passe, c'est que je commence à comprendre ce qui s'est passé, parce que jusqu'à là, je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Je commence à entendre parler des problèmes que crée trop de prise d'antibiotiques, dont on parle encore très très peu en France, parce qu'on prescrit 3 tonnes d'antibiotiques à tort. En fait, quand on prend trop d'antibiotiques, moi c'était pour des cystites, parce que j'avais sans arrêt des infections urinaires, ce que ça fait, c'est que les antibiotiques, ça tue la flore intestinale. C'est-à-dire que quand on a une bactérie, la plupart des antibiotiques, surtout en France, on te donne des antibiotiques de large spectre et pas de petit spectre. Donc en fait, on va faire le ménage d'un coup. Et normalement, un microbiote sain
revient. Donc comme tu étais sous antibio pour des cystites toute ta jeunesse, ça a eu un impact.
Ça a eu un impact, donc ça a fait un gros ménage. Et en fait, la symbiose qu'il doit y avoir normalement, c'est-à-dire que l'harmonie des bactéries, puisqu'elles communiquent chacune entre elles, j'ai sans doute dû perdre une famille de bactéries ou quelque chose comme ça. Et après, je suis partie dans un état de dysbiose.
Et ça, aujourd'hui, ça t'a aidé sur ta maladie? Tu retournes voir des médecins qui peuvent faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tes recherches ont eu un impact pour toi?
Ouais. Si, une fois que je peux poser... une fois que je commence à avoir le bon vocabulaire, en fait, et que je commence à dire « Ah, mais c'est peut-être une pullulation bactérienne, etc. » Je vais voir les médecins et je leur dis « Est-ce que ce serait pas une pullulation bactérienne ?»
Alors là, le mec, il te tape dans la main, il dit « Yes, elle fait partie du crew, pouvoir lui expliquer. »
Non, mais c'est un peu ça. Et tout d'un coup, les mecs disent « Ah, mais on devrait faire un test, machin. » J'ai dit « Bah, t'y as pas pensé avant, toi. » Et en fait, c'est la suggestion qui fait que les médecins recherchent plus. C'est quand
c'est
tu sais leur parler.
Ce que tu dis.
Bah oui, mais c'est triste. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand tu commences. En fait, c'est terrible, mais j'ai découvert qu'il fallait les faire chier. Fallait être la meuf la plus relou de la Terre. Et je pense qu'il y a plein de gens qui restent malades parce qu'ils sont pas assez chiants. Donc finalement, j'ai ce diagnostic pullulation bactérienne parce qu'en France, dans certains hôpitaux, on sait te faire le test. Mais c'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'hôpitaux qui sont capables de te diagnostiquer ça qu'il faut déjà savoir le nom de la pathologie pour trouver
l'hôpital.
Et pourtant,
ça touche plein de monde, c'est ce que tu as l'air de dire.
Alors. La colopathie fonctionnelle, c'est 15% de la population. Selon des études américaines, il y aurait 78% des gens qui ont colopathie fonctionnelle qui auraient en fait le SIBO.
D'accord.
Donc, c'est pas rien.
Ouais, donc c'est pas rien.
C'est pas rien.
Ça se traite derrière, toi, à partir du moment où tu as fait ce test, tu as eu un traitement et...
Alors, il y a plusieurs types de traitements. Il y a des traitements, encore une fois, par antibio. Il y a des traitements par régime particulier. Il y a des traitements par plante. Moi, j'ai tout essayé. Je sais faire du management de symptômes aujourd'hui, mais je ne suis pas guérie parce qu'aujourd'hui, la science au niveau du microbiote, c'est une révolution médicale qui est en train d'arriver. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des millions investis dans des start-up en biotech là-dedans. Mais on en est au stade où on rame encore un peu, quoi. Donc non, je ne suis pas guérie, mais je sais faire du management. Voilà.
Qu'est-ce que tu appelles du management? Tu arrives à mieux apprivoiser ton corps en ayant connaissance du mal et...
C'est-à-dire que au bout d'un moment, par exemple, je sais que mon microbiote réagit très mal au sucre et aux féculents.
D'accord.
Donc si j'élimine les sucres et les féculents, je ballonne beaucoup moins.
C'est pour ça que tu as commandé un thé glacé sans sucre tout à l'heure.
Exactement, c'est ça. Parce que le sucre égale ballonnement, donc si tu veux pas que je te pète dessus pendant l'interview, voilà.
Surtout qu'on fait une longue interview.
Voilà.
Donc tu manages.
Mais c'est-à-dire que si je prends du sucre, c'est reparti pour un tour. Donc et aussi quand je veux manger un tout petit peu plus large, on va dire, il y a certaines plantes qui m'aident, dont l'huile d'origan, la berbérine. Il y a des trucs qui font que ça contrôle, mais c'est du contrôle. Et dès que je lâche le contrôle, ça va plus. Compliqué.
Non, mais c'est passionnant. Et je suis un peu sur ma chaise là par rapport à cette vision du médecin qui va pas plus loin, mais qui, une fois que t'as fait les recherches, te dit oui, je trouve ça assez dingue. Ça fait longtemps qu'on discute, mais je voulais te questionner sur une dernière chose. Tu préemptes les réseaux sociaux et tu sais travailler les réseaux sociaux, notamment Instagram. Tu incarnes beaucoup. Quand je dis tu incarnes, c'est-à-dire que sur tes comptes, tu te filmes.
Ouais.
Et tu te filmes pas. On n'est pas dans un truc où t'es en train de prendre une photo devant un monument de Paris. Tu te filmes dans ton quotidien. Tu te filmes dans ton lit, dans ta cuisine, partout, en
dans
marchant.
Dans des états pas forcément sympathiques.
Exactement. Ouais. Tu pleures face à ton téléphone. Tu ris aussi, mais tu laisses passer tous tes sentiments et ça donne ce côté et à la fois hypersensible et aussi ce côté zéro frontière par rapport aux gens avec qui j'interagis sur Instagram. J'ai pas forcément de questions précises. Est-ce que ça t'est utile de faire ça? Est-ce que c'est utile aux autres? Pourquoi tu le fais? Comment tu peux... Je pense que c'est un rapport à l'écran et aux autres qui est particulier.
Oui, qui est particulier. Pour être tout à fait honnête, déjà, je pense que je suis un peu exhibitionniste, pour commencer. Je pense que si je suis honnête avec moi-même, il y a une partie de ça. Ça a commencé, en fait, ce rapport à Internet, avec un premier projet que j'ai fait en 2012 qui s'appelait Webcam Tears, où, en fait, où j'avais rassemblé à peu près plus de 200 vidéos de gens qui pleuraient sur Internet.
Dont toi.
Ouais, dont moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis toujours filmée en train de pleurer pour la seule et bonne raison que ça me calme. C'est-à-dire que se regarder pleurer, c'est sortir de sa propre émotion. Donc, ça me... C'est-à-dire que je suis plus tellement dans moi quand je me regarde
pleurer. Je comprends, c'est ton personnage qui pleure.
Voilà, exactement. Et du coup, quelque part, ça me calmait. Mais à l'époque, je ne le postais pas sur Internet. Hein. C'est-à-dire que je pleurais, j'allumais la webcam. Et puis, je trouvais que... Des fois, je trouve que... Il y a quelque chose d'artistique à être triste, presque. Enfin, je sais pas. Il y a un truc un peu pur, un peu, un peu brut, qui moi, je sais pas. Il y avait un truc qui m'intéressait là-dedans. Donc j'ai commencé à me filmer. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai posté une vidéo comme ça sur Tumblr. J'ai voulu voir. Et les réactions, je les ai trouvées super intéressantes parce qu'à la fois, t'avais des gens qui m'insultaient, voilà, qui disaient, voilà. Il y a des gens qui savaient pas comment réagir, il y a des gens qui étaient touchés.
Oui, ça des troubles, c'est très troublant pour quelqu'un qui n'ose pas se.
Et
se
c'était montrer. Plus porno que du porno, en fait. Enfin, les gens sont plus gênés par quelqu'un qui pleure que par une bite et un cul, voilà. Et je me suis dit, en fait, je suis en train de faire de l'emotional porn. C'est comme ça qu'à l'époque, je me suis dit, c'est marrant. Et surtout, il y a ce truc de solitude face. En fait, les réseaux sociaux, tout ça, ben ouais, mais au final, on est seul, quoi. Enfin, y avait cette exploration aussi de la solitude et la tristesse des réseaux sociaux, être toute seule derrière son ordi. Et je sais pas, j'ai fait un appel à projet, et en fait, ça a ultra marché. J'ai eu plus de 200 vidéos. Le projet a fini à Beaubourg. Enfin, le truc était délirant, quoi. Je me suis dit, mais incroyable. Et à partir de là, j'avais déjà cette pratique, en fait, de me mettre un peu, brut sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aussi, j'ai toujours été... moi, j'aime bien tout ce qui est art contemporain, et aussi Sophie Kahl, qui est une artiste d'art contemporain, qui a beaucoup mis en scène ses propres émotions et sa propre vie. Et il y avait une de ses expos qui m'avait beaucoup marquée, qui était une expo qui s'appelait « Prends soin de toi ». Et elle avait... Il y a un mec qui lui a écrit une lettre de rupture, et à la fin, il avait signé « Prends soin de toi ». Et elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire « Prends soin de toi ». Elle se disait « Mais c'est vraiment un truc... » Enfin, ça l'interpellait. Et j'ai trouvé que l'expo était complètement ouf. Elle a demandé à, je ne me rappelle plus combien, peut-être 50 corps de métiers différents, d'interpréter cette lettre. Et du coup, c'était un travail, en fait, sur un truc extrêmement personnel. C'est une lettre de rupture. Mais il y avait cette interprétation. Et je ne sais pas, ça m'a vachement inspirée sur cette notion de comment utiliser sa vie privée pour en faire... une performance, entre guillemets. Et c'est resté un peu dans ma tête et je crois que ça m'a très profondément impacté. Et du coup, moi, mon rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, je vois ça un peu aussi comme une psychanalyse, presque une psychothérapie. C'est juste que, ben, au lieu d'aller dans le divan et qu'il y a un mec qui m'écoute en me disant mm-hmm, mm-hmm,
il y en a 50 000 ou 400 000.
Exactement. Donc je fais ça un peu comme ça. Et pourquoi je continue, c'est que j'ai l'impression, après c'est peut-être égocentrique de ma part, mais que ça aide beaucoup de gens. Parce que, par exemple, là, hier soir, j'ai eu une crise de larmes où je me sentais. Souvent, je me sens extrêmement déçue des gens. Je trouve que les gens n'ont pas toujours un cœur très joli et des aspirations très belles. Et j'ai ce sentiment d'être en déception constante. Et je trouve que c'est lourd à vivre et à porter. Et du coup, j'ai un peu craqué, je pleurais et je disais ça. Et finalement, aujourd'hui, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages de gens en fait, qui se sentent sans arrêt déçus. Il n'y a pas de plateforme pour parler de trucs intimes un peu comme ça. Et j'ai l'impression de regrouper finalement énormément de gens hypersensibles, en fait, qui sont tout le temps dans leurs émotions et qui luttent dans cette société pour pas les montrer. Donc de la même façon dont j'ai rassemblé plein de gens sur la thématique de la sexualité féminine.
Pourquoi pas autour de l'hypersensibilité, ouais, et de l'émotion.
Exactement. Et finalement, cette communauté se construit peu à peu. Sur ce sujet-là. Et moi, ça me fait aussi juste du bien de me rendre compte que je suis pas seule dans cette situation d'hypersensibilité, quoi.
Et dans ces stories, justement, c'est toujours toi toute seule,
ouais. Enfin,
de ce que je vois. C'est voulu, si tu veux pas montrer ton entourage, ou
non, je veux
ou
pas les emmerder.
Ouais.
Déjà, par exemple, mon père, tout à l'heure, a vu ma story où je chialais.
Il s'inquiète, c'est normal.
Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, machin? Bon, il comprend pas bien mon rapport avec les réseaux sociaux, donc lui, ça le fait stresser totalement. Donc, non, mais j'ai pas envie de... En fait, pour moi, c'est juste... C'est le fil de mes pensées. J'ai pas envie Enfin, ce serait gênant de mettre mes potes ou mes amis là-dedans. Enfin, okay. C'est aussi une forme de respect pour eux, en fait. De pas les exposer... ils ont pas à être associés à ça s'ils ont pas envie, quoi.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Dora.
De rien.
C'était passionnant. Et puis, du coup, on rappelle que tu as aujourd'hui... 15 comptes Instagram.
C'est ça, exactement.
Donc on va te demander de les lister.
Voilà.
Et surtout que tu travailles sur un documentaire qui sortira quand ?
Je pense en 2020, début 2020.
Début 2020.
Ouais.
Bon, on regardera ça avec attention.
Merci.
Et puis merci encore de ta présence, de tes doux mots sur Insta ou ici.
Merci. Et merci pour l'invitation, c'était chouette.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter Dora. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. Nous revenons dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez découvrir notre podcast bien-être Be Lively, des conseils et exercices bien-être.